présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la deuxième époque de Violence et Crépuscule, Imami. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.
Thank you.
après 5 heures de train, très pénible, le train s'est souvent arrêté. Guillaume n'a pas pu ni manger ni boire. Il est épuisé. Arrivé à Paris, il pleut. Triste, très triste. Le temps est triste aussi. Et il n'a plus l'habitude de la ville. De la gare, il est surpris par toute cette grisaille, ces immeubles à moitié en ruine, les détritus à terre, les voitures à moitié abandonnées, les gens mal habillés, sales, maigres, tristes, les magasins presque vides, la chaussée défoncée. Il ne se souvenait plus de tout ça et vivait en dehors du monde. Cela lui donne le cafard. Il est entré dans un restaurant pour manger un petit quelque chose. Le restaurant, la salle est simple, il y a quelques personnes à table. Un jeune homme à tablier blanc vient à lui. Il est blond, grand, mince. Vous désirez, monsieur ? Guillaume lui dit. Une table, monsieur, pour manger. Le serveur lui dit. Je vais voir, monsieur, car il y a des jours sans et des jours avec. Guillaume lui demande, avec quoi ? Des provisions, monsieur ? Guillaume lui dit, et deux personnes qui sont là ? Le serveur lui dit, ce sont des handicapés carte rose, ils ont priorité. Avant que le serveur s'éloigne, Guillaume lui dit, je viens de faire un voyage en train de 5 heures, sans boire ni manger. Je ne demande pas un repas, mais quelque chose au moins.
Le
serveur s'éloigne.
Et pour moi, croque-monsieur,
il revient et dit, nous pouvons vous offrir que du jambon et des petits pois.
Comme ça, croque-monsieur.
Très bien.
On peut avoir de café,
le serveur l'emmène à une table. Puis, va chercher le repas.
Vous pouvez m'emmener le sandwich d'abord. Hein. Le croque-monsieur peut attendre. Je suis pas seule.
Quoi, de toute façon.
Chez toi ?
Une demi-heure plus tard, Guillaume est sorti du restaurant en se disant « c'est un peu cher ». Il marche dans les rues. Voit un magasin de passé à trappe. Il y rentre. Une vendeuse, grande, mince, blonde, dans les 40 ans, habillée d'une robe écossaise avec un chemisier rouge. Vous désirez, monsieur ? J'aimerais savoir une moustache, des lunettes et peut-être une perruque. C'est pour un film que je fais entre amis. Bien. Elle lui montre plusieurs moustaches. Il prend la plus discrète, c'est-à-dire la moins grosse. Une perruque. Prend celle qui a le moins de cheveux épais et qui va avec la moustache. Puis, une paire de lunettes en métal blanc, petites et rondes. La moustache et la perruque sont châtains. Je désire partir déguisé, si vous me donnez la colle.
Bien, monsieur.
Et il sort du magasin, fait un peu plus sérieux et un peu plus vieux, mais guère. Il a l'air d'un professeur. Son déguisement fait naturel. Il se dirige vers chez sa mère. Si elle me reconnaît, ma foi, tant pis. Ému, très ému, il retrouve la rue où il habite sa mère. Elle n'a pas changé. Le corps battant, il va rentrer dans l'immeuble où elle habite. Il monte à l'étage. La porte est en face de lui. Elle est derrière. Il faut qu'il sonne. Il hésite. Puis, en fermant les yeux, il appuie sur la sonnette qui retentit. C'est lui qui fait tant de bruit. C'est lui qui fait tout ce bruit. Lui qui veut être discret.
Il entend que l'on ouvre la porte. Il a chaud. Son corps bat. C'est la bonne, la petite bonne.
Monsieur.
Il hésite, ne sait que dire, n'a rien préparé, même pas quel nom il doit présenter. Je suis Jacques Mallet, et j'aimerais voir Madame de Flory. Elle lui dit,
je vais voir monsieur.
Et elle le laisse. Il se dit, cela fait drôle de me présenter comme un étranger chez ma mère. Il sent l'odeur de l'appartement et sa lumière. Cela lui fait mal d'attendre comme un étranger. La bonne revient.
Madame veut bien vous recevoir. Veuillez me suivre, monsieur.
Elle l'appelle madame. Lui, le fils. La bonne le conduit au salon.
Entrez, monsieur.
Il entre. Le salon n'a pas changé. Il attend debout, ému. Comment sera-t-elle? A-t-elle vieilli? Et elle? Comment va-t-elle me trouver? Je suis mort de peur. La porte est ouverte derrière lui. Il se retourne et la voit.
Mon Dieu, je suis mort pour elle. Elle est en peignoir beige sur une chemise de nuit blanche. Le teint frais. Un bandeau sur les cheveux en soie blanc. Elle sent bien, fraîche, pas l'air malade. Elle lui dit,
« Vous désirez me parler, monsieur ?»
Elle l'appelle monsieur. C'est elle. C'est qu'elle ne l'a pas reconnu. Lui, le fils. Cela lui fait mal. Il lui dit,
« Je m'excuse de vous déranger, madame, mais je suis un ami de votre fils. Je m'appelle Jacques Merlet, et comme cela fait bien longtemps que je n'ai pas eu de ses nouvelles, je venais vous voir à tout hasard. »
Elle parlait et lui dit,
« Malheureusement, monsieur, mon fils a décédé il y a de cela quelques années. »
Cela leur fait mal à tous les deux. À elle d'avoir annoncé la mort de son fils,
le couteau enfoncé dans la plaie, à lui de l'apprendre par sa mère qui ne le reconnaît pas, et envie de lui dire « Mais non, c'est moi, je ne suis pas mort !» Mais non, il doit jouer la comédie. Il lui dit « Il est mort de quoi ?» Elle lui répond « D'un accident de voiture. » Il ne veut pas lui en demander plus. « Je suis navré, madame. » Elle lui dit « C'est terrible de perdre un enfant. Vous le connaissiez depuis longtemps ?»«
Oui, assez. »
« Cette nouvelle me peine beaucoup. Je l'aimais beaucoup. » Elle lui dit « Venez vous asseoir. »
Elle lui montre un fauteuil. Il s'y assoit. Et elle s'assoit en face de lui.
Vous voulez boire quelque chose ?
Oui, merci. Je viens de faire un voyage de 5 heures dans un train sans boire.
Je comprends.
Elle appuie sur la sonnette qui est sur la table basse. Elle lui demande
« Vous venez de loin ?»«
De Bourgogne. »
« Et vous êtes venu pour voir mon fils ?»
Je n'avais pas de nouvelles.
On a frappé à la porte.
« Entrez !»
C'est la bonne. Madame de Flory demande à Guillaume
« Vous désirez boire du jus de fruits ? De l'alcool ?»
Il lui dit « Un jus de tomate, s'il vous plaît. »«
De jus de tomate, merci. »
Et la bonne s'en retourne.
La mère lui dit « C'est difficile, la vie, et croyez-moi, c'est pas facile de perdre son fils. »
Elle soupire.
Elle lui demande « Que faites-vous dans la vie ?»
Il lui dit « Je suis professeur de français dans un petit lycée de province. »
Elle lui dit « Une vie bien tranquille. »
Entrez.
C'est la bonne qui amène les jus de fruits et les amuse-gueules qu'elle va déposer sur la table basse.
La mère lui dit « Merci, je servirai. »
Et la bonne sœur.
Et la mère fait service. « Poivre, sel, autre. »
« Un peu de sel, merci. » Et elle sert.
Une fois qu'elle a bu une gorgée, elle lui demande « Vous vivez seul ?»«
Oui. »
« Comme moi. Vous restez à Paris longtemps ?»
J'étais juste venu prendre des nouvelles.
Elle lui dit « Vous resterez avec moi cet après-midi. »
« Merci, madame, mais
cela me ferait plaisir. J'aimerais t'en parler de mon fils. »
Guillaume est très ému.
« Je vous remercie. »
Elle lui dit
« Vous savez, lorsque l'on perd un fils, on a envie d'aller au royaume des morts. » pour le retrouver. Mais il n'y a pas de retour.
Elle est très émue. Elle lui dit
« Je ne sais pas pourquoi, mais je me sens triste, drôle. L'émotion de voir un ami de mon fils. De son vivant, il ne m'a jamais présenté personne, à part un grand ami qu'il venait et je le vois régulièrement, car il est mon ami à moi aussi. »
Elle le regarde bien et lui dit
« C'est étrange que vous lui ressemblez. »
En voulant prendre sa tasse, elle la renverse. Il tremble et lui dit
« Vous avez quelque chose ?»
Elle lui dit « Non, rien, juste un peu de migraine qui me vient. »
Il passe la main devant son visage et ne réagit pas. Alors il comprend.
Il se met à pleurer et lui dit « Maman, maman !»
Elle fait
« Quoi ?»
Il pleure.
Elle
dit
« Mais tu n'es pas mort ?»
Il lui prend la main et lui dit « Non, maman, toi non plus. » Il appuie sur sa sonnette. « Oh, maman !» Elle lui dit « Je deviens folle. Tu n'es pas vivant ?»« Si, maman, si. J'ai très mal à la tête. » Elle devient toute blanche.
L'on frappe à la porte. Entrez. C'est la bonne. Vite, appelez les médecins. Votre maîtresse n'est pas bien. Madame Le Fleury se lève et dit.
Non, laissez. Ce n'est rien.
Et elle tombe. Il accourt vers elle, se penche.
Maman,
elle est toute pâle et ne bouge pas, les yeux fixes. La bonne dit, je vais appeler le médecin. Guillaume reste près de sa mère.
Maman, je t'en prie, ne mords pas.
Elle ne bouge pas. Ne parle pas.
C'est moi qui t'ai tué. Le choc était trop fort. Oh mon Dieu, maman. Maman.
La porte s'ouvre. C'est la bonne. Et... La porte s'ouvre. C'est la bonne. Erika. Et se penche.
Il semble furieux.
Elle est morte. Posez-la sur le lit. Je vais préparer les papiers. Il regarde Guillaume et lui dit « Que faites-vous là, vous ?»«
Que je vous avais dit de rester tranquille. »
Guillaume honteux, coupable,
se sauve en courant.
Une fois dehors, il court chez Galien, qui est dans son entreprise.
Il est devant la secrétaire de Galien. Je désirerais voir Galien, de toute urgence.
Si, vous êtes qui ?
Je suis Guillaume de Fleury.
Bien, je vais voir. Allô, monsieur ? Il y a un dénommé Guillaume de Fleury qui désire vous parler. Il paraît que c'est urgent.
Faites-le entrer.
Bien, monsieur.
Vous pouvez rentrer.
Entrez. Galien qui le voit lui dit « Mais qu'est-ce que c'est cet accoutrement ? C'est le carnaval ?» Guillaume accourt vers lui et se met dans ses bras pour tout lui raconter.
Je me sens coupable. C'est de ma faute.
Galien lui dit.
Je te l'avais bien dit. Le choc était trop fort. Mon pauvre petit. Ne pleure plus. De toute façon, elle était perdue. Et peut-être même, seule, ça lui aurait arrivé le même jour et à la même heure. Guillaume lui dit, essaie de faire quelque chose pour la sauver. Sauve quelque chose d'elle, je t'en supplie. Galien lui dit, je vais dire à Requin de prendre le corps et de voir ce qu'il peut faire.
Allô, pouvez-vous dire à M. Requin de venir me voir dans mon bureau? Oui, c'est très urgent. Merci.
Entrez.
C'est Requin.
Monsieur le Président.
Entrez, M. Requin, et venez vous asseoir.
Je vous ai fait venir, c'est pour vous demander, c'est de tâcher de sauver quelque chose de Madame de Fleury. Peut-être comme Pontoise,
Requin lui dit. Je vais voir, mais Pontoise n'avait pas de tumeur.
Requin prend le corps dans son laboratoire et l'a mené dans la salle d'opération. Ouvre le crâne. La bête énorme est là. Elle est si grosse, si grande, qu'elle prend toute la surface du cerveau. Ils enlèvent la tête et nettoient le cerveau. Malheureusement, ils voient que les cellules ont été tuées. Le sang a été mal irrigué. Les cellules sont mortes parce qu'encerrées par la tumeur et le sang n'a pas pu passer. On essaye de voir, en lançant des rayons laser, des décharges électriques, en injectant du sang. Mais il voit que même si la mère avait vécu, elle aurait été paralysée, aveugle, et serait incapable de connaître la gauche de la droite.
africain va parler de tout ça à Galien.
Entrez.
Monsieur le Président.
Venez vous asseoir.
Alors, je vous écoute, monsieur Riquin.
Il n'y a rien à faire. Tout a été étouffé par la tumeur.
Galien demande, mais comment se fait-il que ce soit revenu si vite et pris une telle ampleur? Elle n'était pas bien après son opération?
Riquin lui dit, ça revient très vite.
Vous aviez dit 6 mois à 1 an.
Oui, mais ça peut aller plus vite.
Pourtant, vous nous aviez dit que vous aviez tout enlevé.
Riquin lui dit, oui, nous avons tout enlevé, tout récuré, mais ça n'empêche pas de revenir.
Galien lui dit, alors il ne reste plus rien à faire.
Non, à moins que de faire comme Pontois, prendre des bouts infimes et brancher sur un ordinateur avec l'ADN de la personne, on peut peut-être dialoguer avec elle.
Galien lui dit, bien, je vais en parler avec Guillaume, je vous dirai ce qu'il en pense.
Riquin lui demande,
où est-il?
Chez moi. Il vaudrait peut-être mieux qu'il ne reste pas à Paris, l'on peut le reconnaître.
Dans la soirée, Galien entre chez lui.
Bonjour Guillaume. Bonjour Galien. Allons au salon Guillaume. J'ai quelque chose à te dire. Et ils y vont. Asseyons-nous.
Et il dit à Guillaume ce que lui a dit Riquin. Guillaume lui dit,
faites tout ce que vous pouvez, conservez le plus de choses, cerveau, même en ordinateur, corps, ADN, mettez-y sur une autre personne. Comme cela, j'aurai un peu de ma mère, je pourrai parler avec elle grâce à l'ordinateur, je pourrai lui demander pardon de ne pas lui avoir dit que j'étais en vie. Faites tout, sauf la mort.
Galien le dit à Riquin. Riquin garde le corps, Il le découpera, prendra le corps pour le mettre dans une autre personne. Et pour ce qui est du cerveau, il fait comme pour Riquin. Et il faut du temps pour que ce soit mettre en marche. L'ordinateur a eu l'ADN de Madame de Flory. Les jours passent. Officiellement, on enterre les restes de Madame de Flory dans le caveau familial du côté de Versailles. L'on essaye encore l'ordinateur avec son cerveau. Et pour le moment, pas de réponse. Il est bombardé de rayons laser injectés de sang. Mais le cerveau a été trop endommagé. Un jour, Riquin apprend qu'une jeune fille de 20 ans, de bonne famille, le père est dans les ciments. La jeune fille poursuit ses études d'histoire. Elle a eu un accident de voiture et son corps est endommagé. Si on veut qu'elle vive, il lui faut un autre corps. Elle est à l'hôpital, sans connaissance, à attendre son nouveau corps. Les médecins ont fait des appels de demande d'organes. Riquin, qui est branché sur ses demandes, sur son ordinateur, l'apprend. Il répond de suite qu'il a un corps congelé de très bonne conservation et qu'il a de l'ADN. Il prévient qu'il vaut mieux qu'on lui amène la jeune fille. Il veut faire l'opération lui-même. L'hôpital tergiverse, car elle voudrait bien faire l'opération. Ça lui ferait une bonne publicité. Puis, elle accepte de lui amener la jeune fille. Riquin, dès qu'il la prend, prévient son équipe. Préparez la salle d'opération, le corps, amenez le corps, l'ADN aussi, tout. Il a reçu pour faire l'opération le groupe sanguin de la personne. Les maladies, ses maladies, ses examens, etc. On va chercher le sang qu'il faut dans les réserves. Avec tous les corps qu'ils ont découpés, il y en a beaucoup. Et puis avec l'ADN, c'est bon. Pas de rejet. Mais il vaut mieux avoir le bon sang. Puis, Riquin prévient Galien.
Allô, ici Riquin. J'aimerais parler à Monsieur Galien. C'est urgent. Merci. Allô, Monsieur Galien, je suis Riquin. C'est pour vous dire que l'on a trouvé une jeune fille pour mettre le corps de Madame de Flory. On opère dès son arrivée. Galien lui dit, bien. Mais pourquoi ne pas lui avoir fait un autre organe avec un moule en plastique et un bout de sa peau et l'ADN ? Riquin lui dit. Parce que pas assez de temps. Il faut faire un nouveau corps de suite. Et puis, c'est mieux pour nous. Comme cela, on peut mettre le nôtre. Galien lui dit. Bonne chance. Merci, monsieur.
Ou plutôt la jeune fille. Elle est sur un brancard, déjà anesthésiée et avec perfusion. Vite, on la met dans la salle d'opération et on la dépose sur la table d'opération. Vite, on lui ouvre sa chemise. Riquin trace avec un feutre sur la peau l'endroit où il doit découper et il demande bistouri. Le corps de Madame de Flory est dans une boîte en métal reliée à des tuyaux pour son oxygène et le sang. Il a une belle couleur. Riquin a ouvert la poitrine. Le thorax est défoncé. Il prend le scie pour l'ouvrir et enlever le corps. Il scie le thorax. Puis découpe le corps, le tout, tout ce qui maintient le corps. Vaisseaux, veines, nerfs, tendons. Les vaisseaux sont connectés à des tuyaux qui déversent du sang. Comme cela, le corps a toujours du sang oxygéné. Sort le corps et le donne à une infirmière après qu'il le met dans une boîte en métal. Ensuite, vite, Riquin éponge le thorax à l'endroit où est la place du corps. Puis prend le nouveau corps, le met en place avec l'ADN. Et le connecte avec tout ce qui se doit. Et le masse et lui envoie des décharges électriques pour le remettre en marche. Le corps reçoit le sang et le renvoie. On continue le massage en nommement et l'on replante le thorax. On remet les branches en place. Il faut recoudre la poitrine. Laisser sous perfusion le malade et il est mené dans sa chambre. Ouais. Surveillance permanente. Il ne reste plus qu'à attendre.
Ricain téléphone à Galien.
Allô? Ici Ricain. J'aimerais parler à monsieur Diap, s'il vous plaît. C'est très urgent. Merci. Allô, monsieur Diap? C'est Ricain. Bonjour. Voilà, l'opération est finie, ça s'est bien passé. Galien lui dit, mais cela ne veut pas dire qu'elle est sauvée. Et si elle meurt? Ricain lui dit, on pourra peut-être prendre le corps et le mettre dans un autre. Mais si on fait ça plusieurs fois, on risque de l'user. Galien lui demande, il y a des chances de rejet? Non, pas avec l'ADN. Et puis, on a mis son propre groupe sanguin. Bon. Eh bien, je vous remercie, monsieur Ricain. Au revoir, monsieur.
Guillaume est toujours à Paris, chez Galien. Galien lui dit, il faut que tu retournes au château. À Paris, c'est trop dangereux. Guillaume, surpris, soupire et lui dit, bien comme tu voudras, de toute façon, ma mère est morte. Galien lui dit, dès que l'ordinateur marchera, je te le ferai mener là-bas. Guillaume lui demande, et le corps? Je te préviendrai dès qu'il y aura du nouveau. Guillaume est reparti. Galien a l'impression de l'avoir mis à la porte. Il en a des remords. Alors il lui écrit une longue lettre pour lui dire son amour. Passe. Guillaume a repris sa vie à la campagne. Au début, c'est un peu dur de retrouver le calme. Et puis, il a l'impression que les domestiques surveillent à cause de sa fugue. Se renseigne sur l'état de santé de la jeune fille et veut savoir qui est sa famille. Riquin convoque le père et la mère de la jeune fille. Le père est un grand homme fort, chauve dans les 20-50 ans, costume marine, la mère une femme grande, mince, blonde dans les 45 ans, robe bleue. Riquin leur dit:
votre fille a reçu un nouveau corps. Elle semble accepter, il n'y a pas de rejet.
Le père demande:
peut-on la voir?
Riquin lui dit:
non, pas encore, elle est trop faible. Elle n'a pas encore repris connaissance. Mais vous la verrez très bientôt.
La mère lui demande: le corps appartenait à qui?
Riquin lui dit: j'ai pas le droit de vous le dire. Et puis, un corps est un organe, rien de plus. Mais par contre, moi, je vais vous poser quelques questions. A-t-elle des frères, des sœurs?
La mère lui dit:
non.
Oncle, tante, neveu?
Un vieil oncle, mais que l'on ne voit plus.
Donc, à part vous, personne?
Oui.
Elle vivait chez vous?
Non, elle avait pris une chambre à Montparnasse. Vous comprenez les jeunes.
Il faudra me donner son adresse et en plus votre profession.
Il lui tend un papier. Le père inscrit sur le papier: Nicole Lapierre, 20 ans, étudiante, 20 rue Montparnasse, célibataire. Nom du père: Henri Lapierre, professeur lycée Henri IV. Nom de la mère: Vitalie Lapierre, sans profession. Paris, numéro de téléphone. Et il tend la feuille. Riquin la regarde.
Merci, je vous appellerai lorsque vous pourrez la voir.
Et il se lève, les parents aussi. Je vais vous raccompagner.
Ils sortent du bureau. Suivez-moi. Et il les raccompagne jusqu'à la sortie de la clinique.
Avant qu'ils ne partent, il leur dit:
ne vous faites pas de soucis, tout ira très bien.
La mère lui demande: mais dites-moi au moins si ce corps est un corps de jeune femme ou d'homme.
Riquin lui dit: rassurez-vous, il est d'une femme. Mais cela n'a aucune importance, car un corps n'a pas de sexe. Ce n'est qu'une simple pompe. Tout ce qu'on a dit sur le corps, les sentiments et tout, ce ne sont que de la poésie. Les gens le croyaient, parce que lorsqu'ils étaient auprès de leur personne aimée, leur corps battait plus vite. Mais ce n'est qu'un réflexe nerveux provoqué par le cerveau. Car c'est le cerveau qui décide de tout. Lui a un sexe, mais pas les autres organes comme le corps.
La mère lui dit: j'ai lu cette histoire de cette américaine danseuse qui avait un corps d'un jeune homme et qui s'était sentie toute changée.
Purement psychologique. Et puis vous savez, les Américains sont un peuple un peu hystérique. Vous n'avez pas vu comment ils pratiquent leur religion à coups de cris, de pubs. C'est un véritable spectacle, comme tout ce qu'ils font.
Allez, ne vous faites pas de soucis.
votre fille restera la même.
Allez, au revoir.
Au revoir, docteur.
Au revoir, docteur. Erika retourne à son bureau. Une fois dans son bureau,
il va téléphoner à Galia.
Allô, ici Riquin. J'aimerais parler à Monsieur Diap. Oui, c'est urgent. Allô, Monsieur Diap, c'est Riquin. Bonjour. J'ai toutes les coordonnées de la personne, vous savez, pour le corps. Issu de famille respectable. Très bien.
Galien lui dit, amenez-moi le papier.
Bien, monsieur, j'en fais une copie et je vous la porte.
Il donne le papier à Galien, qui le regarde et le met dans son bureau. Une journée plus tard, la jeune fille commence à se réveiller. On prévient Riquin et on commence à nous procurer des soins. Riquin, après l'avoir sculpté, lui dit
« Tout semble aller, pas de rejet. Avez-vous mal ?» La jeune fille lui dit « Oui, bien sûr, ça me brûle et tire dans la poitrine, à l'intérieur. J'ai l'impression d'avoir un grand poids. »
Riquin lui dit « C'est pas grave, ça cicatrise et puis vous n'avez pas l'habitude de votre nouveau corps. »
Est-ce que ça vous fait mal pour respirer ?
Non, je respire normalement. Je n'aime plus ce poids comme avant.
Galien lui dit,
bien, vous allez rester quelque temps avec nous en observation. Et petit à petit, on va vous faire faire des exercices pour que le corps puisse se remettre à travailler normalement.
Elle lui demande, je vais rester à la clinique combien de temps ?
Peut-être un mois, après, vous irez en maison de repos.